au pays de Banque Atlantique. L'offre Diaspora pour investir au pays vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, profitez-en, nous sommes vendredi, dans 30 minutes, la libre antenne, vous connaissez le principe, vous nous appelez, vous nous écrivez, et RFI vous donne la parole pour commenter l'actualité de votre choix, tous les sujets nous intéressent, ce matin par exemple, on nous interpelle sur la grève de la faim de l'opposant tchadien Succès Masra pour protester contre sa détention, des réactions également, et vous êtes plusieurs à nous appeler de Guinée, une semaine après l'enlèvement de l'avocat Mohamed Traoré, il a été torturé. Il a été libéré quelques heures plus tard. Et vous êtes encore nombreux ce matin à commenter le mystère entretenu par Alassane Ouattara sur son éventuelle candidature à la présidentielle. Va-t-il briguer un quatrième mandat? En tout cas, il se donne quelques jours de réflexion. Voilà donc un aperçu de la Libre Antenne. Il y a d'autres sujets évidemment qui ne vous laissent pas indifférents. 8h40, Libre Antenne. Et d'ici là, vous continuez à nous appeler 33 9 693 693 70. N'oubliez pas, dans un petit quart d'heure, Jessica Taillé, elle nous rejoint tous les vendredis, elle passe la semaine à scruter pour nous les réseaux sociaux et elle viendra nous parler tout à l'heure d'un sujet qui fait débat. Et peut-être qu'après l'avoir écouté, vous aurez envie de prendre la parole, surtout si vous êtes en République démocratique du Congo. Je n'en dis pas plus. Mais d'abord, vos questions à la rédaction pour mieux comprendre l'actualité. On va commencer avec Hassan. Bonjour, soyez le bienvenu.
Oui, bonjour Juan.
À Dakar, au Sénégal.
Oui, bien sûr.
On vous écoute.
Le fils d'un tirailleur sénégalais tué par l'armée française a déposé une plainte pour recel de cadavres devant le tribunal judiciaire de Paris. Juan, à quelle forme de réparation peut s'attendre Biram Senghor?
Alors Biram Senghor, il a aujourd'hui 86 ans et effectivement son père a été tué il y a maintenant bientôt 81 ans sous les balles de l'armée coloniale française pour avoir réclamé le paiement de sa solde. Bonjour Léa Lisa Westerhoff.
Bonjour Juan, bonjour Hassan.
Correspondante permanente de RFI à Dakar, c'est donc une bataille judiciaire autour du massacre de Tiaroy que vient de lancer le fils de ce tirailleur. À quel type de réparation peut-il prétendre ?
Pour le moment, la plainte qu'a déposée Biram Senghor, elle doit servir à obtenir des informations sur le lieu précis de sépulture de son père, puisque la France a reconnu qu'il a été tué par l'armée coloniale française sur le camp militaire de Tiaroy, en banlieue de Dakar. Mais l'emplacement où se situe la dite dépouille n'a jamais été révélé. Avec cette plainte, on ne parle donc pas, pour le moment en tout cas, de demande de réparation financière. La plainte se base sur un article du Code pénal français, en fait, selon lequel toute personne ayant connaissance d'un crime doit le dénoncer aux autorités. Or, l'hypothèse de l'avocat de Biram Senghor, c'est qu'il y a forcément des documents ou des individus en France, peut-être, qui pourraient permettre de savoir où, à Tiaroy, les tirailleurs massacrés le 1er décembre 44 ont été précisément enterrés. Car vous vous en souvenez peut-être, le nombre exact de soldats africains tués ce 1er décembre 44 et le lieu de leur sépulture à Tiaroy font l'objet de versions contradictoires entre les autorités françaises et les historiens qui ont travaillé sur le sujet. Parmi les questions, il y a celle de savoir si les tirailleurs sénégalais ont été enterrés au cimetière militaire de Tiaroy où il y a 202 tombes anonymes ou s'ils ont été enterrés dans des fosses communes ailleurs. Avec cette procédure judiciaire, c'est donc au tour de la justice française et plus précisément du procureur de voir s'il y a des informations encore à découvrir sur le sujet. Le procureur a 3 mois pour ouvrir une enquête.
Et qu'en est-il, Lisa Westerhoff, de la possibilité d'une réparation pécuniaire ?
Alors, elle existe cette possibilité. Si Biram Senghor devait se constituer partie civile dans cette affaire et demander des réparations, par exemple pour le préjudice subi de ne pas avoir pu récupérer le corps de son père pour l'enterrer. Mais pour le moment, cette option n'a pas été prise par l'avocat. Et c'est vrai que par ailleurs, il y a une autre procédure judiciaire en cours en France pour laquelle Biram Senghor réclame le paiement du salaire dû à son père, cette fameuse solde pour les 4 années passées dans l'armée française à se battre pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Biram Senghor réclame aussi des dommages et intérêts pour le fait que son père ait été tué par la France. Cette procédure judiciaire est toujours en cours. Un autre avocat s'en charge, Juan.
Ouais, vous avez une autre question, Hassan ?
Oui. Quel rôle joue le gouvernement sénégalais pour obtenir toute archive sur le massacre ?
Léa Lisa Westerhoff à Dakar.
Alors, il y a deux demandes qui ont été faites par le Sénégal par le passé sur ses archives. Et en 2014, François Hollande avait remis des archives sur le massacre au Sénégal. Selon Paris, il n'y en a pas d'autres, mais plusieurs historiens en doutent. C'est donc bien tout l'enjeu autour de ce crime colonial. Du coup, le 16 août dernier, le gouvernement sénégalais a mis en place une commission scientifique chargée de rassembler un maximum d'informations sur cet événement tragique. Des historiens et des chercheurs en font partie. Cette commission, elle est présidée par le professeur d'histoire à l'université américaine de Columbia, Mamadou Diouf. Et cette commission a obtenu en novembre dernier de pouvoir rendre visite pendant 10 jours à tous les sites d'archives souhaités en France. C'est ce qu'ils ont fait. Les informations récoltées pendant cette visite, elles ont été rassemblées dans un livret blanc qui devrait être bientôt présenté aux autorités sénégalaises. On n'a pas donc encore le détail de ce qu'ils ont découvert. La publication de ce livret blanc était prévue fin mars, mais elle a pris du retard car il a été décidé de commencer des fouilles ou en tout cas des sondages au cimetière militaire de Thiaroy pour voir si des corps de tirailleurs justement ont été enterrés là-bas. Début juin, des membres de l'équipe d'archéologues sénégalais ont affirmé avoir retrouvé des squelettes perforés de balles, mais là encore, rien d'officiel. Tout cela sera rendu public dans ce fameux livret blanc, Juan, dont on attend la publication dans les prochains jours.
À suivre donc. Vous êtes à Dakar, et si vous souhaitez déjà nous interpeller sur cette plainte déposée en France par le fils d'un tirailleur sénégalais, surtout n'hésitez pas, on en parle évidemment dans la libre antenne. Hassan, bonne journée à Dakar.
Oui, merci à vous demain.
Et grand merci surtout à Lisa Westerhoff, correspondante permanente de RFI au Sénégal, où il est 8h17. Bonjour Antoine Grenier.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Du service des sports de RFI, on va parler football et on va revenir sur ce coup de tonnerre qui secoue le foot français depuis maintenant 2-3 jours. Abdel, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour Antoine.
Bonjour Abdel.
À Abidjan, en Côte d'Ivoire, des questions sur l'Olympique lyonnais.
En effet, comme vous l'avez dit, un coup de tonnerre. Alors, je ne comprends pas qu'un club comme l'OL, avec une aussi grande renommée, ait pu être retrogradé en Ligue 2. À ce sujet, j'ai deux questions. D'abord, quels sont exactement les problèmes auxquels les Lyonnais font face?
Les problèmes. On va déjà commencer par les problèmes, parce que c'est déjà un gros dossier, Antoine Grenier. Les problèmes, ils sont d'ordre financier. C'est vrai que cette rétrogradation, elle a surpris tout le monde.
Oui, et au sein même du club, où on pensait justement être protégé par cette forme de renommée, être trop grand pour mourir d'une certaine manière. Et on pensait que les explications avancées par le propriétaire John Textor seraient suffisantes, le patron de l'OL qui s'était présenté devant la DNCG, la Direction nationale du contrôle de gestion.
C'est le gendarme financier du foot français qui, je le souligne, est une commission indépendante qui est chargée de vérifier la viabilité financière des clubs.
Et voilà, et devant laquelle tous les clubs français passent pour présenter leurs comptes, leurs objectifs de réduction de dépenses quand c'est nécessaire, et qui peut, le cas échéant, prononcer des sanctions. Lyon se savait en danger, parce qu'il avait été mis sous surveillance, il était sous le coup d'interdiction de recrutement, bref, il y avait eu tout un tas de mesures qui avaient déjà été prises. Là, c'est la sanction, la rétrogradation qui tombe. Ça a surpris tout le monde, on le disait, parce que Lyon est une place forte du foot français qui jouait encore les premiers rôles. Il n'y a pas si longtemps, même si ça commence à dater.
Bon, cette fois champion de France tout de même.
Oui, et surtout la DNCG, beaucoup la taxaient parfois de complaisance avec les clubs de Ligue 1. Là, c'est vrai qu'on peut admettre qu'elle a frappé fort.
Mais alors pourquoi une telle sévérité, si on peut dire, dans la sanction?
Parce que la DNCG, elle n'a pas motivé officiellement encore cette sanction. Elle le fera dans un deuxième temps. Mais en gros, les reproches qu'elle fait à l'OL, c'est les mêmes que lorsqu'elle avait prononcé une rétrogradation provisoire et les sanctions précédente. En novembre, la DNCG réclamait 175 millions d'euros de garanties à Lyon pour s'assurer que le club avait tout simplement les moyens financiers de tenir une saison complète, et Textor avait promis qu'entre les transferts, notamment celui de Ryan Cherki à Manchester City, les baisses de salaire, le plan de départ des employés du club, tout finirait par rentrer dans l'ordre. En fait, ce qu'il faut voir dans cette affaire, c'est qu'il y a deux logiques qui s'affrontent. Il y a celle du propriétaire de Lyon, l'américain John Textor, qui possède via Eagle Group, sa société, plusieurs équipes, l'OL, mais aussi Botafogo au Brésil et Crystal Palace en Angleterre, et qui estime que le profit tiré d'un des clubs peut profiter à un autre club de la galaxie, par exemple à travers la vente des parts de Textor dans Crystal Palace.
Et justement, concernant cette vente, on parle d'environ 200 millions d'euros sous réserve de la validation de la vente par Première Ligue.
Voilà, et tout cet argent pour Textor pouvait servir au groupe dans son ensemble, sauf cette que cette multipropriété. Ce n'est pas forcément la culture de la DNCG qui a fait remarquer que sur les 200 millions dont on parle, seuls à peu près 40 sont fléchés, étaient projetés vers l'OL, ce qui s'avérait insuffisant. Parce qu'il faut ajouter à ça que le club, il est déficitaire depuis longtemps, que le stade, même s'il en est propriétaire, lui coûte de l'argent, que Textor doit rembourser ses créanciers des fonds d'investissement qui lui ont prêté pour qu'il achète le club à des taux parfois importants, et que enfin, bah, l'OL a de moins en moins d'actifs puisqu'il a déjà vendu sa section féminine et la LDLC Arena, sa salle Omnisport. Tout ça, ça fait que la DNCG s'est montrée très sévère.
Abdel, je vous ai coupé la parole, vous avez une deuxième question, allez-y. Abdel ? Allô, Abdel.
Allô, moi, je vous entends.
Ah oui, bah, nous, on veut vous entendre. Je crois que je vous ai coupé la parole, vous avez une autre question.
Oui, c'est ce que je disais. J'ai dit que le club a fait appel, à ce que je sache. Quelles sont ses chances d'obtenir gain de cause ?
Alors, Antoine. Ouais, on le disait, si la vente des parts de Crystal Palace est finalisée rapidement et que Textor met cet argent sur le compte destiné à l'OL, ça peut influer sur la décision d'appel. Mais en 7 jours, le délai qui est accordé à Lyon pour faire appel, c'est compliqué d'avancer sur un dossier aussi coûteux. Le PSG a fait un geste aussi en réglant la totalité de l'indemnité de transfert de Bradley Barcola plutôt que de la lisser sur plusieurs...
C'est fair play.
C'est très fair play et ça permettrait éventuellement que ces 45 millions d'euros arrivent dans les caisses directes directement de l'OL, ce qui peut aider. Après, si ça passe toujours pas, bah, il restera des recours devant le CNOSF, puis face au comité exécutif de la fédération. Et puis, en cas de confirmation de la décision de première instance, Lyon pourra saisir le tribunal administratif. Mais en général, le tribunal, il suit les décisions de la DNCG. Donc, ça va être compliqué pour Lyon.
Et puis, il va falloir aller vite, hein, puisque la saison reprend dans un mois et demi.
Voilà, c'est ça.
Moins de deux mois.
Ça vient très très vite et il faut régler cette histoire avant.
Abdel, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, merci Juan, merci.
Antoine Grenier, journaliste du service des sports de RFI, bonne journée à tous les deux. 10h22 à Paris, encore une question. Et on retrouvera tout de suite après Jessica Taïeb pour sa chronique Un œil sur les réseaux, des questions sur le programme nucléaire iranien. Bonjour Jean-Bernard.
Bonjour Juan.
Soyez le bienvenu, vous êtes au Cameroun ?
Oui, à Douala.
Exactement, on vous écoute.
Oui. L'Iran affirme que la majorité de ses stocks d'uranium a été déplacée. J'aimerais déjà comprendre à quoi ressemble l'uranium. Est-ce que c'est un liquide, une poudre, un solide? Est-ce que c'est une matière qu'on peut facilement déplacer? Sait-on où pourrait être stocké l'uranium?
Ouais, ça fait beaucoup de questions que vous posez, mais qui de mieux placé qu'Emmanuel Galichet pour vous répondre? Bonjour.
Bonjour.
Merci de prendre quelques instants. Vous êtes enseignante chercheuse en sciences et technologies nucléaires au Centre national des arts et métiers. À quoi ressemble l'uranium ?
Eh bien, c'est un métal lourd parce que justement les uraniums sont des noyaux lourds, donc il est un peu radioactif. C'est un métal naturel qu'on trouve en fait dans la croûte terrestre, avec même une abondance bien supérieure à l'argent. Et donc, on peut l'extraire directement de notre croûte terrestre.
Ouais, ça, c'est l'uranium naturel. Une fois enrichi, il ressemble à quoi ?
Alors, il peut être sous plusieurs formes, puisque l'uranium naturel donc, a deux isotopes, ont deux noyaux un peu différents, l'uranium-235 et l'uranium-238, qui ont des très très longues périodes radioactives. Et donc, effectivement, pour nos applications, nous avons besoin de l'enrichir en uranium-235, qui est le seul isotope fissile naturel, en fait. Ouais, donc, c'est celui qui va permettre de faire des fissions.
Ouais, c'est un peu technique, mais c'est important. Et je comprends que les auditeurs se posent ces questions, somme toute légitimes. On leur parle d'uranium depuis maintenant une dizaine, 12 jours, quotidiennement, 24 heures sur 24. Je ne sais pas si c'est facile à expliquer, Emmanuel Galichet, comment on enrichit l'uranium. Là aussi, on entend parler de centrifugeuse. Comment ça
Absolument.
Se passe ?
Absolument. En fait, quand vous allez prendre le minerai d'uranium dans la mine, vous ne pouvez rien en faire. Donc, vous allez faire des transformations chimiques. Et donc, l'uranium va passer par plein d'états différents. Il va être d'abord solide. Il va ensuite passer dans des formes liquides, donc simplement de la chimie, et ensuite sous une forme gazeuse pour justement permettre l'enrichissement dans ces fameuses centrifugeuses. Une centrifugeuse, il faut voir ça comme celle que nous avons dans nos cuisines qui vont nous permettre de séparer la pulpe dans un jus d'orange par rapport à un jus sans pulpe. Eh bien, on va faire tourner ce gaz pendant énormément de temps, évidemment, avec des vitesses extraordinairement haute. Et au fur et à mesure qu'on tourne, que ce gaz tourne, eh bien, l'uranium 238 va être projeté sur les extérieurs de cette fameuse centrifugeuse. Et l'uranium 235 va rester au centre parce qu'il est, il a une masse plus petite.
Et plus, c'est comme ça. Et plus il tourne, plus il s'enrichit.
Absolument.
Ah,
plus vous tournez, plus vous allez avoir, en fait, plus vous allez le purifier en uranium 235. Vous allez garder l'uranium 235 et vous séparer d'uranium 238 dont on n'a pas besoin parce qu'il ne fissionne pas.
Oui. Il nous reste une petite minute pour répondre à une question qui nécessiterait peut-être des heures de débat. Où se trouve donc le stock de ces 400 kilos d'uranium enrichi à 60%, un stock que disposait l'Iran avant les frappes. L'Iran assure l'avoir caché. Est-ce qu'on a des informations alors qu'il est Emmanuel Galichet?
Alors, non, effectivement, aujourd'hui, nous n'avons pas d'informations sur ces fameux 400 kilos d'uranium enrichi. Ils ont pu le déplacer. La matière nucléaire, évidemment, se déplace. Attention, il y a des réglementations internationales pour déplacer des matières nucléaires qui font partie des marchandises, en fait, dangereuses. Mais vous avez la possibilité de le faire dans ce qu'on appelle des cylindres, c'est-à-dire des espèces de fûts assez petit, suivant l'enrichissement que vous avez, évidemment, vous ne transportez pas de la même façon de l'uranium enrichi à 5% comme celui à 60%. Donc, il y a des réglementations, mais ça se déplace.
Merci infiniment, Emmanuel Galichet, d'avoir été clair. J'ai tout compris. J'imagine que Jean-Bernard également, à Douala.
Oui, c'est vrai que c'est une technologie très complexe,
bah voilà.
On comprend un peu.
Bah voilà, on comprend un peu et on est là pour ça, pour tous les matins, pour vous répondre. Bonne journée Emmanuel Galichet, merci Jean-Bernard. Qui vois-je arriver dans le studio? Jessica Taïeb.
Bonjour Juan.
Bonjour, comment allez-vous Jessica?
Bien et vous?
Un œil sur les réseaux, hein, vous avez scruté pour nous Instagram, TikTok, Facebook et cette semaine, c'est une chanson qui fait le buzz hein, sur les réseaux sociaux. Si vous êtes en République démocratique du Congo, vous l'avez forcément entendu.
Yeah, awa tokuna. Yeah, na longwe na fingi. Yeah, one esprit wenge. Yeah.
Voilà, c'est un court extrait de Wenge Politica, le nouveau son du chanteur engagé congolais Alech, prix découvert RFI en 2021. Sur ce morceau, les fans auront reconnu la participation de Zozo Machine. En une semaine, Jessica, le clip a déjà totalisé plus de 170 000 vues sur YouTube.
Ouais, il faut dire que les thèmes abordés résonnent chez de nombreux citoyens. Hein, corruption, transhumance politique, promesses non tenues. La classe politique dans son ensemble en prend pour son grade, hein, tout comme les militants un peu trop zélés. On retrouve dans ce morceaux chantés en lingala et en français de nombreuses références à la vie politique congolaise. Si je vous dis Juan, à la moindre escarmouche
ça me dit quelque chose, j'ai l'impression qu'on en a parlé dans cette émission il n'y a pas si longtemps que ça.
Ah oui exactement, l'expression avait été lancée rappelez-vous par le président Félix Tshisekedi en décembre 2023 chez nos confrères de Top Congo à l'époque en pleine campagne électorale pour son second mandat. Il avait menacé de déclarer la guerre au Rwanda au moindre accrochage, des propos qui avaient ensuite été repris de nombreuses fois sur les réseaux sociaux.
Bon, en tout cas, cette chanson a trouvé son public, Jessica. Rapidement, nombreux sont les internautes qui se sont appropriés Wenge Politica sur TikTok.
Oui, des centaines de TikTokers déjà ont posté leurs vidéos face caméra en train de chanter ou d'écouter cette musique. Et sous leurs vidéos, des centaines de commentaires, souvent très élogieux. Hein, je vous en partage quelques-uns. Wenge Politica n'est pas qu'une chanson, c'est un cri du peuple, une gifle sonore aux politiciens déconnectés. Merci à Alech et Zozo Machine. Et un autre internaute qui affirme que ce tube n'attaque pas seulement le régime actuel, mais aussi la transhumance politique et ceux qui ne font que chanter des louanges aux politiques.
Et comme souvent, les internautes ne sont pas unanimes. Hein. Wenge Politica suscite également des commentaires négatifs.
Notamment sur la toute fin du morceau où l'on entend André Mbata, un député du parti au pouvoir, chanter tout sourire joyeux anniversaire au président de la République lors d'une réunion publique en juin dernier. Un extrait qui illustre un peu la flatterie politique hein, que dénonce Wenge Politica, mais certains internautes autre sagace. Et celui-ci, je vous le lis, où est le mal de souhaiter un joyeux anniversaire en chantant ? Les artistes manquent d'inspiration et cherchent le diable où il n'est pas.
Voilà, donc la chanson est à retrouver évidemment sur toutes les plateformes. Vous l'avez certainement entendu en RDC, vous avez peut-être envie de réagir à la chronique de Jessica Taïeb. Eh bien, on en parle dans 10 minutes, juste après la dernière édition d'Afrique Matin. À la semaine prochaine, Jessica.
À la semaine prochaine.